nous allons reprendre la session, si vous voulez bien, parce qu'on a déjà pris un peu de retard sur notre programme, et même si on avait prévu un temps certain et un certain temps pour cette table ronde, l'après-midi est très chargé, et je ne voudrais pas empiéter sur le programme de l'après-midi ce matin. Alors, j'ai le plaisir d'abord d'avoir, de pouvoir accueillir ce colloque dans le cadre d'un certain nombre d'activités que nous menons à l'ULB sur la question de la justice et du juge. Mais j'ai aussi un deuxième plaisir, beaucoup plus personnel aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'être la première femme minoritaire dans une table de ce colloque. Et donc, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que c'était la première table qui comportait plus d'un homme et que ces deux-là étaient rien que pour moi. Alors, brièvement, je vais essayer, vu que nous ne sommes que trois, de poser quelques jalons pour une certaine réflexion sur ce qui est l'objet de cette session, à savoir la question de la légitimité des juridictions et de la place que prend le genre dans cette question de la légitimité des juridictions. Alors, on l'a vu hier, on l'a rappelé, mais on ne l'a pas discuté. La justice est traditionnellement représentée par une femme aux yeux bandés. Et pourtant, malgré cette représentation symbolique, mais néanmoins très présente dans notre, je dirais, civilisation, entre guillemets, l'histoire le démontre, la féminisation de la magistrature est récente, et les chiffres le prouvent, cette féminisation, même si elle est en forte augmentation, reste inégale et cantonnée aux juridictions dites inférieures, comme l'a rappelé Anne Lagerwal ce matin. Mais au-delà du fait de la présence ou non des femmes dans la magistrature, ce qui, à mon sens, fait l'objet de cette session et en particulier de la table ronde que nous incarnons, c'est la question, évidemment, du droit de cette présence et donc de savoir si le genre du juge et éventuellement un équilibre des genres dans la magistrature est souhaitable, et si ce genre ou cet équilibre contribue à la légitimité de la magistrature et plus généralement de la justice, même si je pense qu'on peut distinguer ces deux choses, à savoir d'une part la légitimité des juges et d'autre part la légitimité de la justice, parce qu'on a assimilé jusqu'à présent les deux, mais on pourrait imaginer de distinguer ces deux questions. Alors, on a vu ce matin différents exposés, notamment le dernier, le brillant exposé de Françoise Tulkens. On a vu aussi que cette question pouvait être inversée, c'est-à-dire non plus est-ce que la présence des femmes est nécessaire pour la légitimité, mais simplement le fait qu'une justice dont les femmes seraient absentes serait perçue, elle, comme illégitime. On a entendu également dans les différents exposés aujourd'hui, mais aussi déjà hier, et on en a parlé entre nous à l'occasion de façon plus informelle, on a vu différents arguments en faveur d'un meilleur équilibre, hein, le mot d'équilibre est revenu plusieurs fois, un meilleur équilibre et l'idée fondamentale qui a été évoquée encore ce matin, qu'il faudrait démocratiser la justice. Alors, démocratiser la justice, ça veut sans doute dire différentes choses. Je crois que les orateurs de cette, enfin les participants de cette table ronde reviendront sans doute sur cette question. Mais on a retenu deux grands axes, enfin j'ai entendu moi deux grands axes de cette démocratisation. D'une part, garantir, hein, comme on l'a dit, un accès égal des hommes et des femmes à la magistrature et à la profession judiciaire. D'une part. Mais aussi faire en sorte que la justice soit davantage en adéquation ou en phase avec la réalité de la société, avec la société réelle. Et sur ce point-là, les avis étaient, disons le vocabulaire qui a été utilisé, varié. Certains parlaient de confiance. On a vu les raisons que j'avais moi-même notées pour lesquelles Françoise Tulkens refuse cette notion de confiance. On a parlé de représentativité. On a parlé de symbolique, on a parlé de différentes on a utilisé différents noms et différentes qualifications, mais dans toutes ces idées, il y avait l'idée que la magistrature, si elle était démocratisée, devait l'être pour être plus en phase ou plus en adéquation avec la société. Et évidemment, dans ce sens, contenir une sorte de parité entre les hommes et les femmes, puisque dans la réalité, les hommes et les femmes constituent, comme on l'a répété plusieurs fois, la moitié, les uns et les autres, de l'humanité. Alors, il me semble que l'objectif de ces interventions, et en tout cas les raisons pour lesquelles les organisateurs du colloque ont choisi les orateurs de cette table ronde, c'est à présent de ne plus partir de la question du genre pour poser la question de la légitimité, mais partir de la question de la légitimité de la justice, et éventuellement de la question de la démocratisation de la justice en rapport à la question de la légitimité, pour ensuite revenir à celle du genre et de la place du genre dans cette légitimité. Alors hier, à plusieurs reprises, j'ai entendu des personnes qui disaient, au fond, on peut poser la question du genre dans la justice d'une façon assez similaire de la façon dont elle est posée dans d'autres domaines, et en particulier en politique. En disant, et j'ai bien noté qu'on disait finalement, la question du genre des juges n'est pas fondamentalement différente de la question du genre, par exemple, des parlementaires. Alors moi, ce que je vous propose de façon, pour cette table ronde, de façon un peu, en tout cas j'invite, je le propose à mes collègues qui sont à cette table, et je propose pour le débat de façon un peu provocatrice, ou en tout cas intellectuellement provocatrice, c'est d'essayer de partir, de contester cette affirmation, et de partir du présupposé inverse, à savoir que la légitimité de la justice est différente d'autres types de légitimité politique, et que donc... on ne peut pas poser la question de la légitimité de la justice de la même façon qu'on pose la légitimité d'autres institutions dites démocratiques. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je vous propose de partir de cette question pour essayer de voir en quoi le genre pourrait être ou non retenu comme une des conditions de la légitimité de la justice. Alors, brièvement, et juste pour lancer le débat, j'évoquerai quelques arguments qu'on a entendus en faveur d'introduire une parité de genre dans la justice pour garantir sa légitimité propre. Mais ça pose une série de questions que j'évoque de façon très générale et qui sont revenues, il me semble-t-il, dans les exposés ce matin. Un tribunal doit-il être représentatif ? La représentativité politique suppose-t-elle une identité entre les représentants et les représentés ? La légitimité des juges est-elle une vraie question politique ? C'est une provocation, hein, évidemment. Les juges doivent-ils être considérés comme des personnes ? Considérer le genre du juge, est-ce compatible ? Et on l'a vu dans l'exposé de Françoise Tulkens, qui a apporté une certaine réponse, mais est-ce compatible avec l'idée de neutralité ou d'impartialité ? Et si la justice, pour être légitime, doit être à l'image des justiciables, ne risque-t-on pas de produire une justice de classe, une justice différentes selon les justiciables, et donc de revenir sur ce qui était l'égalité devant la loi, voire même la sécurité juridique. Ne faut-il pas, comme je le disais tout à l'heure, distinguer la légitimité des décisions de justice de la légitimité des juges eux-mêmes ? Alors évidemment, il y a plein de réponses qui ont été apportées dans l'histoire et dans les débats sur qu'est-ce qui fonde la légitimité des juges et de la justice. J'en évoquerai le plus rapidement possible, mais j'essaye d'aller doucement pour les interprètes. J'en évoquerai deux, non pas pour théoriser, mais simplement parce que ces deux courants ou ces deux approches de la légitimité correspondent en réalité assez bien aux deux cultures juridiques occidentales qu'on a retenues comme structure ou comme trame pour ce colloque. Il y a une réponse qui correspond en gros à celle du positivisme juridique et qui est relativement en adéquation avec la légitimité des juges civilistes. Et puis, il y a une autre proposition qu'on qualifiera de plus réaliste ou qui correspond davantage au réalisme juridique et qui est plus présente dans les traditions de common law. Alors, je vais vite, hein. La réponse positiviste. Qu'est-ce qu'a toujours fait le positivisme juridique ? Enfin, toujours, souvent, il a tenté d'évacuer la question de la légitimité pour considérer uniquement la question de la légalité. C'est bien connu. Du point de vue positiviste, ou en tout cas strictement positiviste, en réalité, la légitimité de la justice dépend de la légalité des décisions de justice. Et par là, il faut comprendre qu'une décision est légitime quand elle est conforme à la loi, quand elle est rendue ou prise par une autorité compétente, quand elle est établie, quand elle est rendue selon des procédures établies, quand elle prend la forme adéquate, et ainsi de suite. Cette conception de la justice, ou en tout cas de la légitimité de la justice, très formelle, est adossée, et c'est ça qui nous intéresse, à une certaine vision du juge que je pense, même si c'est mythologique, relativement encore dominante dans la culture juridique continentale. Pourquoi ? Parce qu'il me semble, et c'est revenu dans les différents exposés, que cette culture juridique tend à vouloir évacuer la question de la personnalité du juge. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par cette notion de personnalité ? C'est-à-dire le fait que le juge soit une personne, ce que concrètement tout le monde peut constater, mais le fait que c'est en tant que personne qu'il juge. Et à ce titre, on a évoqué le mythe du juge bouche de la loi, en rappelant à quel point c'était un mythe, mais néanmoins, le mythe juge bouche de la loi est un mythe performant, et j'y reviendrai dans un instant, qui a pour vocation d'évacuer ou de supprimer la dimension personnelle du jugement, puisque c'est la loi qui parle et non le juge lui-même. Et Montesquieu dira « on craint la magistrature et non les magistrats ». Évidemment, le genre du juge dans cette vision non seulement est indifférent, mais doit être indifférent. Hein. On vous rappelez la citation de Robert Badinter qui a été évoquée hier. C'est cette indifférence du genre qui garantit justement dans ce système la légitimité de la décision. Hein. La légitimité dépend de l'indifférence du genre dans la décision. Alors bien sûr, on l'a dit ce matin, c'est un mythe dans la mesure où on se rend bien compte que la notion de bouche de la loi ou la notion de syllogisme judiciaire qui a été encore évoquée ne correspondent pas nécessairement à une réalité de ce qui se fait, mais ça n'empêche pas que ces mythes ont des effets sociaux importants, notamment en termes de légitimation de l'institution judiciaire. La force des notions comme celle de bouche de la loi n'est pas qu'elle est vraie, mais c'est qu'elle permet au juge de fonder la légitimité de sa fonction. C'est-à-dire que plus il arrive à incarner ce mythe, plus on va pouvoir percevoir la légitimité de sa fonction. La question qui se pose alors aux systèmes continentaux, ou en tout cas aux systèmes dans lesquels cette mythologie est encore très dominante, c'est la question que va poser celle du réalisme de l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, chacun sait que le juge est une personne. Hein ? Par exemple, le juge est une femme. Et donc chacun sait que c'est en tant que personne qu'il juge. De même, François Stulkens l'a rappelé tout à l'heure, la pratique des juridictions qui s'occupent des droits de l'homme montre que les juges ne sont pas des machines à syllogisme et qu'il faut donc construire, c'est la revendication du réalisme juridique, de nouveaux modèles plus conformes justement à la réalité. Donc vous voyez ici que cet argument de représenter une justice ou un juge qui soit plus proche ou plus adéquat ou plus en adéquation avec ce qu'est la réalité de la justice est proche de l'argument qu'on avait déjà entendu tout à l'heure, comme quoi la justice doit être plus proche de ce qu'est la société réelle. C'est le même type d'argument. Et c'est la raison pour laquelle le réalisme juridique va justement distinguer, d'une part, la motivation formelle des décisions, hein, toujours très présente en droit continental, elle va distinguer cette motivation formelle et, d'autre part, les raisons réelles, cette fois-ci non plus formelles mais bien réelles, qui ont guidé le juge dans sa décision. Ce qu'il a mangé au petit déjeuner, hein, comme disait le célèbre juge Holmes de la Cour suprême, et qui influence donc son humeur, mais aussi, de façon moins péjorative, les opinions du juge, ses croyances, mais aussi ses loyautés, hein, notamment à l'égard de son genre. Et dans cette perspective plus réaliste, en tout cas qui revendique un certain positionnement réaliste, le genre peut évidemment avoir une influence. La question, évidemment, rappelez-vous, c'est de savoir s'il doit en avoir une. Le fait de cacher cette influence du genre, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui est souvent le cas dans notre tradition continentale, serait donc à l'origine d'une forme de crise de l'institution, en laquelle les citoyens n'auraient plus vraiment, et je reprends le mot qu'on n'aimait pas, confiance, puisque précisément ils auraient l'impression face au juge d'avoir affaire à des gens qui, en réalité, cachent les motivations ou les déterminations, comme l'a dit François Stulkens, qui en réalité définissent la décision qu'il rend. Et face à cette crise, c'est dans le cadre de cette crise, je crois que les orateurs reviendront sur cette question, c'est face à cette crise qu'on entend parler alors de démocratisation de la justice. Et on plaide dans ce cas-là, et moi la première justement, dans le cadre de cette démocratisation, pour qu'on reconnaisse les opinions personnelles du juge, ou en tout cas pour qu'on puisse leur donner une certaine place. La question étant de savoir quelle place exactement on leur donne. L'idée étant que reconnaître les opinions personnelles du juge, leur donner une place, c'est refonder la légitimité de la justice, notamment en responsabilisant les juges et faisant appel à ce que les anglophones appellent accountability, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes, hein, de motiver les opinions néanmoins même personnelles que l'on peut avoir dans une situation. Pour aller vite, je noterai juste une chose, c'est que cette position, évidemment, pour les cultures juridiques continentales, elle est pleine de risques. Et c'est pour contourner ce risque qu'on remarque quelque chose qu'on n'a pas soulevé encore, me semble-t-il, qu'on n'a pas pointé, me semble-t-il, depuis le début de ce colloque, c'est que souvent, on va voir dans les traditions continentales, on va voir certains arguments en faveur de la présence des femmes dans la magistrature. Mais on va éviter, dans ces arguments en faveur d'une plus grande présence des femmes dans la magistrature, on va éviter l'argument de la diversité, pour au contraire utiliser ces arguments, pour au contraire montrer que plus de femmes a pour but non pas de diversifier les points de vue, mais de neutraliser la diversité. Ou de neutraliser les points de vue particuliers que certains hommes, notamment, pourraient avoir sur la justice. Autrement dit, plus de femmes dans la justice, ou la parité par exemple dans les juridictions suprêmes, n'aurait pas dans cette optique la fonction de donner une place à des identités diverses, mais au contraire de renforcer la neutralité de ces juridictions supposées par justement le positivisme juridique. Alors, à cela, je l'avais dit, il me semble que les systèmes de common law, même s'ils sont très divers et qu'il est toujours un peu fallacieux de les regrouper en une seule catégorie, puisque en leur sein, on voit des grandes différences, mais néanmoins, il me semble qu'ils apportent une autre réponse, ou en tout cas qu'ils permettent d'aborder la question qui nous occupe d'une autre façon, et je terminerai là-dessus avant de céder la parole aux autres. Tout d'abord, ils admettent, ça a été dit plusieurs fois et notamment par Adélaïde en introduction, ils admettent dans l'ensemble que le juge est une personne. Ils admettent que l'identité de cette personne compte, dans une certaine mesure, hein, qui est plus ou moins forte, dans la justice que la magistrature rend. Mais en outre, et c'est là un peu un paradoxe, c'est que ou peut-être c'est la conséquence de cette reconnaissance, hein, peut-être. En outre, les systèmes de common law, me semble-t-il, ne font pas reposer la légitimité de la justice sur les seules épaules des juges, au sens où on les entend dans cette discussion. En réalité, la légitimité au sens démocratique de la justice dépend aussi, me semble-t-il, vous me contredirez, dans les systèmes de common law, cette légitimité dépend aussi des liens qui sont tissés entre ces juges et la société elle-même. Et pour cela, on peut parvenir à tisser des liens entre la justice et la société, pas seulement en rendant, par exemple, les juridictions plus représentatives, ou pas nécessairement en les constituant ou en les composant à l'image, à l'identique de la société. On peut aussi renforcer les liens entre les juges et la société par d'autres mécanismes, notamment, par exemple, en renforçant les juges non professionnels, en renforçant les jurys populaires, ou en renforçant encore, ou en proposant par exemple d'élire directement les juges. C'est une façon de démocratiser la justice, c'est une façon de poser le problème de sa légitimité, qui cette fois-ci est, me semble-t-il, différente. Alors, on a vu bien entendu dans l'exposé de Sally Kenny ce matin que cette dimension démocratique, en tout cas, hein, n'est pas forcément une féminisation de la justice. Hein. Elle ne répond pas, ici, moi je pose la question de la légitimité démocratique, elle ne répond pas à la question propre de la question du genre, puisqu'on peut notamment récuser, hein, des jurés, par exemple, précisément en raison de leur genre. Mais il me semble qu'elle permet de poser cette question, en tout cas, différemment. Et c'est ce qui, me semble-t-il, permet d'expliquer, en quelque sorte, le paradoxe par rapport aux juridictions américaines, hein, qu'on a vu, enfin, que j'ai cru voir hier dans les exposés. C'est que, d'une part, on est aux États-Unis, il me semble-t-il, on est dans un système où on reconnaît plus ouvertement que chez nous les missions proprement politiques des juges, d'un côté, et d'un autre côté, il y a moins de femmes que chez nous. Ça veut dire que ces juridictions, au sens strict, sont moins représentatives. Et l'hypothèse serait donc que les systèmes, comme le système américain, ont en réalité décidé de faire reposer la légitimité de la justice non pas sur une décision ou une directive politique comme par exemple les quotas, mais même sans aller jusqu'à les quotas, juste des recommandations d'équilibre, mais au contraire ont fondé la légitimité démocratique de la justice sur des moyens plus procéduraux, par exemple l'imposition de jurés dans les décisions de justice. Alors j'arrêterai ici cette réflexion trop longue, qui est évidemment, pour ceux qui me connaissent, motivée par mes intérêts qui me sont propres, par le fait que je suis une philosophe qui s'intéresse à la justice et qui donc se pose ces questions de la légitimité et à ce titre découvre la question du genre comme un outil ou une entrée sur cette question de la légitimité et de la démocratisation de la justice. Et je voulais effleurer ces questions simplement pour nourrir le débat et pour m'aider à poursuivre ce débat. Je vais à présent céder la parole aux deux autres personnalités masculines qui m'entourent, à savoir Jacques Comaille et Julien Piré. Alors Julien Piré, bien connu de cette maison puisqu'il a effectué une thèse de doctorat qu'il a réalisée au sein du Centre de droit public de l'ULB, est aujourd'hui professeur au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Et il mène des recherches dans différents domaines, mais notamment sur les rapports entre le droit hein, et les mouvements sociaux. Et je pense qu'il est sensible à la question en tant que telle de la légitimité de son rapport avec la société. Après lui avoir cédé la parole, je céderai la parole à Jacques Comaille, qui est sociologue du droit, qui est professeur émérite des universités à l'École normale supérieure de Cachan, et c'est important pour nous, docteur honoris causa de notre université. Il a beaucoup contribué dans ses travaux au dépassement des frontières disciplinaires entre le droit, la sociologie et la science politique. Hein, rien qu'en tant que tel, il est au cœur de ce qui fait la question du genre dans la justice. Et dans sa bibliographie très fournie et très diverse, on trouve notamment de nombreuses réflexions sur le rapport des citoyens au droit et à la justice. Et donc, je leur cède la parole avant de vous permettre de débattre avec la salle.
Voilà. Merci Madame la Présidente. Je suis particulièrement fier de participer à cette manifestation scientifique dont on a à juste titre souligné la nécessité. Et je voudrais évidemment remercier et plus exactement féliciter Madame Adélaïde Remiche pour l'organisation de ce colloque en tout point parfaite. Alors durant les prochaines minutes, je reviendrai sur l'argument au cœur des trois interventions que nous avons entendues ce matin, compte tenu de la situation médiane de cette session au sein du programme de ce colloque. Je tenterai aussi de tracer des liens entre ces interventions et les débats auxquels nous avons assisté hier et comme ceux que nous aurons la chance de suivre cet après-midi. Alors, au centre de cette deuxième session repose donc le postulat qu'un appareil judiciaire mixte, sinon paritaire, serait plus légitime car plus représentatif. Eh bien, je souhaite modestement mais radicalement interroger ce postulat, et j'emploie ici le terme radicalement dans son sens littéral, puisqu'en effet, ce sont les racines de ce postulat que je questionnerai avec vous, et ce à deux niveaux. D'une part, en remontant aux fondements libéraux de ce postulat, et en tentant d'en illustrer les paradoxes lorsqu'il vise le pouvoir judiciaire. D'autre part, en rappelant que ce pouvoir judiciaire a un sexe masculin, et que dès lors, il n'est pas certain que la présence des femmes en son sein suffise à en modifier le genre. Mais peut-être est-ce précisément parce que ce postulat de la légitimité représentative ou de la représentativité légitime a moins pour objectif de modifier les choses que de les stabiliser. Si je résume grossièrement l'argument nous ayant réunis cette matinée, c'est l'idée que pour être légitime, un pouvoir doit être représentatif. Tout se passe comme si, pour accepter l'exercice de la domination, et c'est bien cela dont nous parlons depuis hier, hein, pouvoir judiciaire, c'est à un moment donné une décision contraignante, eh bien, il n'est sans doute pas suffisant, mais il semble absolument nécessaire que le dominant nous ressemble. Comme François Stulkens, je confesse mon profond scepticisme sur le lien qui est postulé, parfois mécaniquement dans la littérature, entre une représentativité accrue d'un service et la confiance, elle aussi croissante, dont bénéficierait ce service auprès de ses usagères et de ses usagers. On a rappelé hier que la justice ne semblait pas être particulièrement valorisée ces derniers temps. Il me semble que les enquêtes sur la confiance qu'ont les justiciables envers l'appareil judiciaire ne tendent pas à révéler une augmentation significative. Et ce qui m'apparaît en tout cas établi, c'est qu'il serait scientifiquement délicat de vouloir envisager fût-ce une corrélation entre une telle augmentation et la féminisation accrue que rencontrent les appareils judiciaires occidentaux et non occidentaux, et ce, à des degrés divers. Pascal Viel a rappelé hier que la présence massive des femmes à une audience... Ok, je suis désolé, je vous avais communiqué le texte préalablement pour faciliter la traduction, mais je vais tenter de ralentir le rythme, quitte à dépasser les 15 minutes qui m'étaient imparties. C'est habile, n'est-ce pas ? Pascal Viel a rappelé hier que la présence massive de femmes à une audience visant un homme pourrait, d'après elle, être de nature à susciter le doute de ce dernier dans l'impartialité du tribunal. Alors, d'où nous vient cette idée que pour être légitime, il s'agit de représenter ? Ben, évidemment, du contrat social et des théories contractualistes du pouvoir, clé de voûte du libéralisme politique tel qu'il se donne à voir entre les XVIe et XVIIIe siècles en Europe. Mais au fond, il est tout de même paradoxal de voir ainsi la représentativité du pouvoir judiciaire venir au secours de sa légitimité discutée, alors qu'au cœur même d'une autre notion clé du libéralisme politique, soit la séparation des pouvoirs, se situe la non-représentativité du pouvoir judiciaire. Pour le dire autrement, alors que la légitimité du pouvoir judiciaire, soit son devoir de réserve vis-à-vis des initiatives du pouvoir législatif ou de ses absences d'initiative, repose sur le constat qu'il n'est pas représentatif, car généralement non élu, on lui demande dans le même temps d'être plus représentatif pour être légitime. Le paradoxe devient ironie quand on se souviendra que la séparation des pouvoirs a régulièrement été invoqué par le pouvoir judiciaire au titre de principale justification à une restriction de droits des femmes. Hier, Judith Resnick a évoqué la jurisprudence américaine interdisant le barreau aux femmes. Au Québec, on connaît l'affaire Langstaff de 1912, où le juge refusa d'intervenir. C'est au législateur, et non à la législatrice, de dire s'il souhaite des femmes en toge, nous disait le juge québécois à l'époque, et le législateur répondra positivement, mais 30 ans plus tard. Plus près de nous, dois-je rappeler aux juristes belges les tergiversations de la Cour de cassation, s'agissant de ne pas reconnaître, toujours au nom de la non-représentativité de cette institution, des droits égaux aux enfants légitimes et illégitimes, débat par ailleurs toujours d'actualité au Québec et ailleurs. Ainsi, depuis que nous vivons dans un état de droit libéral, nous avons le culte de la représentativité, longtemps cristallisé autour d'un processus électoral, mais largement ouvert à d'autres modalités, sans doute plus performantes du reste. Car, en effet, et en ce compris lorsqu'ils visent les juges, aucun processus électoral ne garantit une représentativité par les personnes élues du corps électoral, lui-même parfois peu représentatif. On a rappelé hier qu'accéder à la magistrature n'était pas donné à tout le monde. Et ce, quelles que soient ses modalités d'accès. On a pu lire dans certaines enquêtes que par rapport à leurs collègues hommes, les femmes magistrates venaient en moyenne d'une classe sociale plus aisée. Comme quoi l'intersection des catégories sociologiques offre souvent des résultats féconds pour l'analyse. Certes, l'état de droit pourra se satisfaire d'une telle représentativité dans le contexte d'une égalité des chances à accéder au métier judiciaire. Mais ce que nous pourrions appeler une démocratie ne pourrait-elle pas, poursuivre une représentativité plus ambitieuse, comme nous y a invité Françoise Tulkens il y a un instant. Ainsi, dans la plupart des pays occidentaux, il est rare de descendre, par exemple, sous un taux de 10% de personnes analphabètes. Alors un pouvoir judiciaire représentatif, véritablement représentatif, ne devrait-il pas être composé d'en moyenne de 10% de juges analphabètes ? Mais venons-en à la seconde partie de ma discussion et à ces modalités de recrutement, de désignation, de promotion observables au sein de la magistrature. Les exposés d'hier étaient sur ce point extraordinairement éclairants. Partout, ces mêmes plafonds de verre, même dans les pays dont les appareils judiciaires sont les plus féminisés. N'est-ce pas l'indice que nous sommes face, comme l'ont rappelé nos quatre intervenantes de ce matin, face à une institution mâle, conçue par et pour les hommes, et dont la structuration interne a été et reste forgée au départ d'une lecture masculine du droit et de ses métiers. Ce constat peut sembler provocateur, peut-être autant, sinon plus, que de suggérer le recrutement de juges ne sachant lire et écrire qu'avec difficulté. Mais comme le disait Bertolt Brecht, provoquer, c'est souvent remettre la réalité sur ses pieds. Alors, je ne peux pas démontrer que quand bien même ces plafonds de verre étaient explosés, cela ne changerait rien. Il est cependant significatif de lire régulièrement, à l'appui de l'argument de la représentativité, que cet argument est le plus efficace, car il se suffirait à lui-même. Il est presque naturaliste. À un état naturel mixte et paritaire devrait correspondre une justice idoine. Surtout, et à ce titre, il permettrait, nous dit-on, de faire l'économie du débat complexe relatif à l'impact des femmes dans la façon de rendre justice, débat dont nous aurons un magnifique panorama cet après-midi, et débat que je vais d'ores et déjà introduire, et ce, sans nuance, on m'a demandé de lancer une discussion. Et donc, l'intuition que je soumets à cette discussion est qu'une justice paritaire, à tout niveau, ne serait pas fondamentalement différente que la justice non paritaire que nous connaissons depuis qu'elle est dite justice. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'on ne naît pas juge, on le devient. L'anecdote rapportée par Kate Melson hier sur ce juge britannique, qui récemment cherchait the great man for the job, était dramatiquement savoureuse, car tellement significative. On peut l'interpréter comme suit. Ce juge cherchait un homme, fût-elle une femme. Peut-être que le juge est une femme, mais la juge est un magistrat. Alors, je joue avec les mots, mais je suis juriste, c'est ma formation. Et surtout, mille excuses encore une fois pour les interprètes, car j'imagine que ce type de jeu de mots ne doit pas être facilement traductible en anglais. J'en profite d'ailleurs pour vous féliciter et vous remercier pour le travail toujours impressionnant que vous réalisez dans le cadre de ce colloque. Mais revenons à la discussion. Ce que je veux dire par cette formule, c'est qu'une femme, pour devenir magistrate, a fortiori une magistrate au top de la hiérarchie, voire même hors hiérarchie, comme en France, eh bien cette femme aura dû éprouver, et éprouvera encore, un ensemble de processus de socialisation construits autour de la figure du mâle dominant. La justice a un sexe et elle est homme. Alors, mettons de côté l'image sculpturale de la justice qu'a rappelé Julie Allard à l'instant et que l'on a vue en arrière-fond des diapositives de Ulrich Schulz. Cette image de la justice qui a semblé en Europe moins choquée qu'aux États, comme l'expliquait hier Judith Resnick, cette femme quand même représentée non sans une certaine dose de fétichisme, les yeux généralement bandés et qui manipule des objets contondants. Alors, on sait que cette iconographie s'est fixée aux alentours du XIIIe et XIVe siècle pour accompagner les premières institutionnalisations judiciaires et qu'elle emprunte à plusieurs divinités classiques. Mais cette femme justice fétichisée est à l'instar de Marianne, symbole féminin de la République, mais qui occulte la profonde misogynie du mouvement révolutionnaire français. Car tout dans la justice renvoie à l'homme. Alors, moi aussi, j'ai une petite anecdote personnelle à vous partager. Lors de l'une de mes premières réunions, ici, à la faculté de droit et de criminologie de l'Université libre de Bruxelles, il y a une petite dizaine d'années, je fus brièvement surpris par la remarque d'une collègue, par ailleurs magistrate, et je vous jure que c'est vrai, qui nous expliquait que le droit, c'est la guerre, et que pour le connaître, et donc l'enseigner, il faut mener cette guerre, comprendre, d'après cette collègue, trancher, plaider des conflits. Brièvement surpris, car au fond, tout renvoie à la guerre dans le procès. N'attaque-t-on pas en justice ? Ne parle-t-on pas des droits de la défense ? D'égalité des armes ? De parties succombantes ? Connaît-on plus viril comme métaphore que celle militaire ? Mais quittons les symboles tout en restant dans la mythologie. Il est tout de même intéressant de constater que la représentation du juge, la plus citée par la science juridique, car émanant du plus influent théoricien du droit de ces 30 dernières années, je parle, comme François Sulkens, de Ronald Dworkin, est le juge Hercule. Hercule, lui aussi tout un imaginaire peu porté vers la féminité. Hercule qui compte parmi ses exploits, rappelons-le, le fait d'avoir tué une gang de femmes, les Amazones, les premières dragues de l'histoire, puisque leur signe caractéristique était d'avoir récupéré et sublimé les attributs associés aux hommes, soit les armes. Toujours dans le champ scientifique, il est aussi percutant de constater que la justice invisibilise ou représente les femmes de façon particulière dans l'accessibilité de son produit. En témoigne une étude passionnante menée par deux collègues de l'Université de Laval, Louise Langevin et Valérie Bouchard, qui expliquent comment les principaux moteurs de recherche jurisprudentielle au Québec n'indexent pas le mot « femme ». Dès lors, dans leur recherche pour accéder à leurs matériaux jurisprudentiels, elles ont dû entrer des mots-clés comme « droit de la personne » et « égalité », ou encore, pire et envie-je dire, « droit de la mère », « droit des époux ». Dans le champ académique, on a rappelé hier que la féminisation des facultés de droit semblait, et comment, moins rapide que celle de l'appareil judiciaire. Bon, vu le temps imparti, je vais m'arrêter ici, mais l'on a compris que je pourrais multiplier les exemples. On pourrait par exemple évoquer l'architecture des palais de justice. Exemple qui tend à montrer que le pouvoir judiciaire est un boys club et le restera, fut-il désormais autorisé aux femmes. Alors, pour paraphraser Marx, Groucho Marx, doivent-elles faire partie d'un club qui les accepte comme membres ? Et surtout, pourquoi faire ? Alors, en guise de conclusion, mais peut-être aurais-je dû commencer par cela, trois précautions. Premièrement, vous l'aurez compris, j'emprunte cette lecture masculiniste du judiciaire à une perspective féministe que l'on appellera et qui se revendique comme telle, pour le dire vite, radicale. Comprenez-moi bien, je ne suis pas féministe. Je ne peux pas être féministe. Je ne peux pas être féministe parce que le point nodal d'ordre épistémologique entre toutes les approches féministes, c'est de s'ancrer dans une expérience vécue. Et en tant qu'homme, je ne peux pas prétendre à une expérience de femme. Ceci étant, en tant qu'homme, je peux tenter d'être pro-féministe, tenter d'entendre tout ce que ces femmes ont à nous dire du droit et de ses institutions. Deuxième précaution, je souhaite lever tout malentendu potentiel. La lecture du pouvoir judiciaire comme viril ne vise pas à essentialiser ni la justice, ni les hommes, ni donc les femmes. Bien sûr qu'il existe des archétypes de virilité, comme il existe des archétypes de sororité. Mais ce sont précisément des archétypes, soit déconstruits. Et la réalité qu'ils visent à traduire est pareillement le produit de processus sociaux et culturels. Et c'est sur ces processus que j'ai précisément mis l'accent ces dernières minutes. Enfin, et troisièmement, j'insiste, il est certain que toutes les analyses, et parmi elles certaines féministes, ne partagent pas cette lecture de l'appareil judiciaire. Ainsi, au même titre que certaines souhaitent utiliser le droit pénal en vue de lutter contre l'oppression des femmes, d'autres s'inscrivent dans une perspective abolitionniste. Certaines rejettent le vocable des droits humains, quand d'autres l'instrumentalisent au profit des femmes. Bon, la question est la suivante, faut-il ou non sauver le bébé des droits lorsque l'on jette l'eau de la loi ? Au final, si l'homme vient de Mars, le juge d'Hercule, les féministes viennent de Janus dans leur rapport aux droits. Elles aussi, entre la tentation d'utiliser les armes du dominant, la justice, le droit, et la volonté assumée de ne pas vouloir faire en mieux la même chose, mais tout simplement de faire autre chose. Comprenez-moi bien, je ne souhaite pas laisser entendre que ces approches manqueraient de consistance, que du contraire, ces débats permanents et sans cesse réaffinés montrent l'extrême vigueur de ce courant de pensée qui nous oblige, comme toute approche véritablement critique du droit, à modifier nos schémas cognitifs qui ont patiemment percolé dans notre imaginaire, et ce faisant, à dévoiler ce que le droit a puissamment réussi à naturaliser. Et c'est à ce titre qu'elle constitue une ressource infinie pour tout qui souhaite comprendre et expliquer de façon réflexive ce que sont le droit et la justice. Je vous remercie.
Oui, je vous cède la parole, Jacques Comaille.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Julie. Je vais essayer d'apporter quelques éclairages de façon un petit peu spontanée et en partant d'une conviction profonde de chercheur qui est ancienne. C'est que la recherche féministe ou la recherche sur le genre ne vise pas seulement à observer, à analyser la condition des femmes, leurs aspirations, les positions qu'elles occupent dans la société, mais que ces recherches sur le genre, ces recherches féministes, doivent constituer une contribution à grande valeur heuristique sur des processus sociaux, sociopolitiques plus généraux, contribuer à des recherches de sens, précisément, sur ces processus généraux de nature sociale, politique, et qui sont à l'œuvre au sein de nos sociétés. Et il me semble que ce colloque, effectivement, ce superbe colloque sur la place des femmes dans la justice, nous renvoie à des questions plus générales qu'on ne cesse d'évoquer depuis hier, la question de l'égalité, la question des discriminations, la question de la représentativité, celle de la légitimité dont on vient encore de parler, celle qui a été évoquée par François Sulkens tout à l'heure aussi sur la question des facteurs extra-juridiques qui contribuent à la construction du jugement. Et donc, je voudrais me situer dans cette perspective un peu de généralisation et faire ce renversement que vous évoquiez tout à l'heure, Julie, c'est-à-dire poser la question en quelque sorte en quoi cette réflexion sur la place des femmes dans la justice éclaire une question plus générale qui est la question de la place et du statut de la justice dans nos sociétés actuelles. Et donc la question aussi non plus simplement de la légitimité en référence à la place accordée ou non accordée aux femmes dans la justice, mais la question plus générale de la légitimité de la justice qui, me semble-t-il, se pose avec une forte acuité actuellement. Et je voudrais donc très vite donner quelques exemples de cette question de la légitimité de la justice qui se pose avec acuité en évoquant quatre enjeux auxquels donc la justice est confrontée. Premièrement, la justice comme institution et par rapport à la question de la place des institutions dans, je dirais, la régulation sociale et politique de nos sociétés. Deuxièmement, la question des professions. Je voudrais dire un mot sur la question des professions aussi, les incertitudes sur le statut des professions dans nos sociétés, en me référant là notamment à des travaux internationaux de sociologie des professions. Troisième enjeu très rapidement évoqué, celui qui concerne ce que j'appellerais les nouvelles assignations de la justice, qui relèvent, je prendrai deux exemples, qui relèvent de ce qu'on a appelé le phénomène de judiciarisation du politique, et un deuxième exemple, pris d'ailleurs à partir de travaux canadiens et québécois dans lesquels j'ai investi, sur ce qui serait la nouvelle place de la justice dans la gestion du social. Et puis, quatrième et dernier enjeu, celui de, que vous avez évoqué un peu, Julie, dans votre introduction, du rapport au droit et à la justice comme enjeu démocratique. Donc, très vite, d'abord sur la question de l'institution. Donc, l'institution de justice se situe dans un contexte général d'interrogation sur les institutions et de ce que certains appellent donc le déclin des institutions, ce qui s'expliquerait d'une part par ce qui serait l'avènement d'un individu démocratique, d'une plus grande souveraineté de l'individu, qui serait de plus en plus réticent à l'égard de ce qu'on lui impose, de ce que la loi et les institutions visent à lui imposer. Donc on serait dans une évolution, notamment dans les sociétés occidentales, je dirais d'une culture vers des relations plus horizontales, plus égalitaires, qui prévaleraient de plus en plus sur des relations verticales et hiérarchiques. En tous les cas, interrogation très forte, effectivement, sur les institutions et sur le statut des institutions dans nos sociétés, dont l'institution de justice. Deuxième enjeu très important, il concerne cette fois-ci ce qu'on considère comme des mutations des professions et du statut des professions dans nos sociétés. on serait dans une situation en quelque sorte de rupture avec une définition du travail des professionnels qui n'est plus de façon générale pour d'autres professionnels que les juges, que les professionnels du droit, qui n'est plus en quelque sorte la définition d'une règle figée, mais la recherche donc de nouveaux types de légitimité professionnelle. Et donc on serait face à un contexte général de diminution du pouvoir et de l'autonomie des professionnels en général, avec, et je m'en excuse auprès de François Sulkins, un recul très fort de la confiance, telle que le montrent les travaux en sociologie des professions, de la confiance du public à l'égard, de façon générale, des professionnels, et notamment des professionnels de justice. Lié à une élévation du niveau d'éducation et de la capacité d'accès à l'information des citoyens, qui ont en quelque sorte réduit ce qu'on peut appeler l'asymétrie cognitive entre les professionnels et leurs clients, et puis plus largement sans doute lié à un développement des mouvements de contestation des autorités en général dans nos sociétés. Un point aussi important qui concerne les professionnels et les professionnels en général et qu'on observe bien entendu dans le domaine de la justice, c'est une standardisation des pratiques et une technicisation du travail. Et là, ça renvoie, donc ça entraîne ce qui serait une perte d'autonomie des professionnels et ça renvoie à ce phénomène dit de managérialisation de la justice, donc qui fait l'objet, qu'on peut considérer comme une tendance lourde au niveau international et qui par conséquent là pose le problème de la capacité des juges à penser la justice et à contribuer même aux débats sociaux et politiques sur les finalités même de la justice. Les juges deviendraient en quelque sorte des techniciens dans une machine de plus en plus bureaucratisée, de plus en plus rationalisée. Troisième enjeu, très, très rapidement, c'est celui de ce que j'ai appelé les nouvelles assignations de la justice. Et là, je serai très rapide, donc judiciarisation du politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui semble être une tendance lourde, là aussi, analysée au niveau international, qui correspondrait, qui s'inscrirait dans une crise des démocraties représentatives et qui entraînerait donc un déplacement de l'exécutif, du législatif, vers le judiciaire et donc l'assignation dans laquelle se trouverait la justice à intervenir de plus en plus dans des domaines qui relevaient auparavant exclusivement du monopole de l'action du politique. Deuxième illustration, c'est la gestion de la justice, du social par la justice. Et là, l'idée suivant laquelle l'État, intervenant de moins en moins en amont dans le domaine du social, dans les divers domaines du social, et là, je pense à ces recherches, notamment canadiennes, québécoises, qui portaient sur les itinérants, les sans-domicile fixe, qui portaient sur l'internement psychiatrique, sur le harcèlement dans l'entreprise, et qui montre en quelque sorte une obligation de la justice à intervenir de plus en plus dans ces domaines-là. Et elle le fait, c'est intéressant, à la fois en recourant, en s'appuyant sur l'expertise psychologique, et elle laisse apparaître, c'est ce que montrent les recherches, précisément pardon, l'expression de valeur personnelle du juge dans la construction des jugements, dans la gestion précisément de ces affaires relevant du social. Quatrième et dernier enjeu, donc, c'est le rapport du droit et de la justice aux enjeux démocratiques. Et là, je crois qu'on ne peut pas ignorer dans cette réflexion à laquelle on se livre, effectivement, sur la place des femmes dans la justice et la question de la légitimité liée à cette question de la place des femmes, je crois qu'on ne peut pas ignorer la grande interrogation actuelle sur comment redonner de la légitimité au droit et à la justice, et donc de rétablir, restaurer ou améliorer le rapport que les citoyens doivent avoir avec le droit et avec la justice. Et là, les questions qui apparaissent dans des travaux au niveau international, effectivement, c'est comment notamment modifier ces rapports à la justice. Et Julie, vous en avez évoqué quelques-unes, c'est-à-dire au niveau procédural, au niveau de l'implication, au niveau évidemment de la présence des femmes dans le corps des juges, mais au niveau aussi de la présence des citoyens et de quel citoyen, quelle diversité on vient de le poser. Donc, et éventuellement aussi, c'est la place de la localisation de la justice, c'est-à-dire où la justice doit être rendue, où la fonction de justice doit s'exercer. Donc ce problème aussi de la proximité ou de la distance est un problème qui relève précisément de cette question des rapports de la question de la légitimité de la justice et du rapport des citoyens à la justice. Donc, très rapidement, ce que je voulais, en quelque sorte, c'est, de façon un peu peut-être excessive, rappeler ce que j'appellerais ces éléments de contexte sur des grandes interrogations qui surgissent dans nos sociétés actuelles sur la question du statut de la justice et sur le rapport au droit. Et il me semble que, si je puis me permettre, c'est un élément que j'introduis dans le débat, c'est qu'on ne peut pas parler de la question des places, de la place des femmes dans la justice, toutes choses égales par ailleurs. Et qu'en l'occurrence, mon propos très rapide et très un peu spontané vise à dire qu'on n'est pas toutes choses égales par ailleurs, que les choses par ailleurs sont des choses qui actuellement évoluent fortement et posent des questions d'une grande importance. Donc, la question, me semble-t-il, de la légitimité de la justice doit être posée en soi pour être apportée ensuite à la question de la place des femmes dans la justice. Et je terminerai en disant, en référant à des réflexions récentes sur qui relèvent de ce qu'on appelle la sociologie de l'institution et qui nous offrent de ce point de vue-là des perspectives intéressantes. Et vous verrez donc que je termine plutôt sur une note optimiste. Ces réflexions sur la sociologie de l'institution mettent en effet l'accent sur les résistances à l'institution. Et cette fois-ci, non pas dans une perspective plutôt négative, pessimiste, de contribuer à ce qu'on appelle la crise des institutions traditionnelles, dont la justice, mais comment ces résistances à l'institution peuvent contribuer au maintien de l'institution en participant à ce qu'on pourrait appeler un processus de renouvellement. Donc, dire, comme le fait ce colloque, de la place que n'ont pas les femmes dans l'œuvre de justice, est-ce que ce n'est pas une forme de résistance à l'institution? Et alors on peut en quelque sorte considérer que les résistances à l'institution peuvent contribuer, comme par une forme de ruse de la raison, à la production de l'institution et au-delà, à la mise au jour de sa vérité. Donc je pense que les réflexions de ce colloque sur précisément la place des femmes dans la justice est une réflexion importante pour la vérité de l'institution judiciaire.
Donc, vous voyez que chaque participant à cette table ronde a déjà donné un certain point de vue sur ce qu'il estimait être la problématique de la légitimité.